Voilà Dano, cercle gauche, bagarre, belle passe à Caulfield. Le tir, quel arrêt! Deuxième lancé de Dano, un autre arrêt de Markstrom. Goal, Caulfield vient d'avoir sa meilleure chance de marquer.
On comprend qu'au-delà du match, qui était évidemment un enjeu important, l'arrivée de M. Caulfield dans l'uniforme du Canadien a tiré hier, c'était comme un peu l'hystérie sur les réseaux sociaux.
Il y avait un petit buzz, disons.
Ben, tu sais, écoute, on s'accroche à
ce jour qu'on l'attend. Hein?
Oui, puis on s'accroche à ce qu'on peut de ce temps-là. Tu comprends? C'est que tu dis, oh, on a une activité, un match d'hockey à 6h30, c'est parfait.
C'est vrai qu'hier, il y avait beaucoup de choses qui sortaient de l'ordinaire un peu. Là.
Le Canadien l'a emporté hier dans un match ordinaire. Là.
Oui,
nous avons convoqué ce matin les deux
La seule chose qui ne sortait pas de l'ordinaire, c'est la qualité du spectacle.
Oui,
c'est ordinaire.
Martin et Danny sont avec nous. Bonjour à tous les deux.
Bonjour, messieurs.
Bonjour, messieurs.
Danny, je veux t'entendre d'abord sur le match d'hier. C'est une victoire, c'est correct, c'est deux points, là. Mais on ne garde pas ça dans les archives, là.
Non, mais c'est comme quelqu'un que tu lui demandes de conduire son véhicule puis faire très attention pour pas avoir d'accident, là.
Ouais.
Puis la limite, c'est 100, puis il roule à 75, là, 70.
OK.
Et ça fait pas une petite promenade qui est très intéressante. Tout le monde te dépasse, puis tu regardes autour. Mais c'est un petit peu ça, hier, le Canadien, en termes de conscience défensive, de jeu sobre, quatre joueurs en zone neutre pratiquement tout le match, très, très peu d'initiatives. Mais ça a payé. Ça a payé parce que le Canadien a eu seulement 7 revirements dans tout le match. C'est pour eux autres, là, c'était ce qu'ils devaient éliminer, c'était la mauvaise exécution, les mauvaises décisions et tout ça. Donc, heureusement, ça combiné à prendre l'avance puis placer les Flames un petit peu à contre-nature, jouer du hockey de rattrapage, ça a bien servi le Canadien.
Martin?
Moi, je pense que Cole Caulfield a fait comme le reste de l'équipe, il a été prudent. Il s'est exercé à faire des bonnes sorties de zone le long des rampes. Là, les Flames aiment aller coincer les joueurs là. Alors lui, à 5 et 7, là, coincé, c'est pas une bonne solution. Alors il a dégagé vite la rondelle des coins, il a fait de bonnes passes, il a patiné avec ses compagnons. Alors lui a été à l'image de l'équipe. Quand il a eu une chance, il dégaine, la rondelle part vite. Puis le reste de l'équipe a fait ça exactement. Tu sais, Kotkaniemi, le match devant, deux revirements. Je pense qu'il a passé la soirée à passer le centre de la glace puis l'a tiré dans le fond. On sentait, comme Danny dit, là, qu'il n'y a personne qui voulait être la vedette du vidéo ou se ramasser dans les faits saillants de RDS pour 24 heures. Puis surtout, il voulait rentrer à la maison avec une victoire parce que s'il avait fallu qu'on quitte Calgary avec un balayage puis surtout un différentiel de seulement 2 points entre les deux équipes, là le Canadien aurait été vraiment, mais vraiment dans l'eau chaude.
Mais là, on parle d'une équipe craintive, là. C'est-à-dire que ton plan de match, là, c'est de pas faire d'erreur, c'est pas d'être pertinent à l'attaque, c'est pas de marquer des buts, c'est on va essayer de limiter les dégâts en espérant sauver avec 2 points.
Mais la première chose qu'on veut faire, c'est toujours de créer de la stabilité pour avoir un résultat, puis bâtir un peu de confiance à partir d'un résultat. Mais tu sais, des fois, le résultat, c'est pas chic, là, mais t'as un résultat. Fait que là, lui, l'entraîneur, il peut parler à ses joueurs de quelque chose qui a mis en avant-plan, qui a fonctionné, qui peuvent reproduire.
L'affaire, c'est qu'il y a tellement d'instabilité dans cette équipe-là, c'est que d'un match à l'autre, tu sais pas comment ça va se passer, tu sais pas vraiment ce qui va arriver. Puis il y a beaucoup d'instabilité dans l'alignement. Là, c'est pas de la faute de l'entraîneur, il y a des blessés. Là. Byron, à un moment donné, Jonathan Drouin va arrêter d'être malade un jour. Là, c'est pas la COVID, on sait pas ce que c'est, mais il est malade. Gallagher, ça va être plus tard. Price, on sait pas quand. Alors, il va avoir encore du mouvement. Il y a des gars qui vont revenir, d'autres gars qui vont sortir. On va changer les trios. Hier, on a trouvé une bonne mouture sur le quatrième trio. Ils ont été vraiment bons hier, Jake Evans. Mais là, Jake Evans est même pas sûr de rester parce que si tu rentres des réguliers, tu vas être obligé de bouger encore. Alors ça va encore générer des changements, puis des changements. Ils font que ça, des changements, depuis un mois.
D'ailleurs, dans le cas de Evans et de Caulfield, ils sont là sur des rappels d'urgence.
Oui.
Alors, quand les blessés vont revenir...
Ils repartent,
là. Ils retournent avec l'équipe de réserve, eux autres-là. Là.
C'est mais techniquement. C'est ça que j'allais dire. Là. Hypothèse, mettons, que Caulfield, je sais pas, le prochain match, disons qu'il marque un but, mettons qu'il
va rencontrer 10 dans un match à partir du moment où les blessés reviennent.
Il va être un problème pareil.
Ouais, OK. Vous en pensez quoi, messieurs, de Caulfield?
Ben, moi, écoute, il y a quelque chose que le Canadien n'a pas dans l'offre de Cole Caulfield, c'est la vitesse à laquelle il dégaine ses tirs. Puis, tantôt, Martin va faire une comparaison. Je lui laisse la faire, là, parce que on s'amuse souvent à regarder les joueurs puis à trouver des parallèles. Puis il y a certainement un joueur qui a joué pour le Canadien qui ressemble, c'est pas mal Caulfield, c'est pas mal de la même façon. Donc c'est un joueur qui va être quand même assez productif, je pense. L'avantage numérique, définitivement, c'est un marqueur naturel. Et j'ai trouvé, honnêtement, hier, que c'est bien acquitté de ses responsabilités pour un petit joueur. Là, il a bien travaillé dans les zones restreintes, il a été intelligent. Et j'aime... Il y a un côté, malgré toute son offensive, il y a un côté sobre dans son jeu. Donc, il y a de la stabilité, il est fiable. Tu sais, souvent, là, un jeune joueur, il est très productif offensivement, mais il est un peu échevelé défensivement. Il arrive, il défait toutes les affaires. L'entraîneur le regarde aller, il dit « Mon Dieu, faut que je le cadre un peu, là, parce que tout le monde le regarde faire, puis il se demande où est-ce qu'il s'en va. » Même Romanov, qui est un très bon défenseur à l'occasion, on le voit être un petit peu partout, tu sais, se promener. Donc, ça, j'ai aimé ça de lui.
Le cerf-volant qui coupe sa corde. Là.
Ah, mais
il y a beaucoup chose que Caulfield fait, c'est un marqueur et il lance au but à part ça. Quand il y a la rondelle, tu sais, la séquence qu'on a entendue tantôt, là, tu sais, il n'y avait pas beaucoup d'angle. C'était assez restreint comme angle.
Ouais.
Il était sur le bord. Mais il y a eu un retour qui est tombé sur le bâton de Dano. Ça a provoqué quelque chose. Quand tu lances au filet, ben c'est jamais ce qui peut arriver. Là.
Moi, je trouve qu'il ressemble beaucoup à Michael Camilleri. Camilleri était plus costaud, là, pas tellement grand, mais plus gros un peu, là, mais dans sa façon de jouer, son ordinateur, la façon de tirer, il me fait beaucoup penser à Michael Camilleri. S'il obtient la même carrière que Camilleri, ça va déjà être très bon pour le Canadien et pour Caulfield. Par contre, moi, je me pose la question, là, on sait, il est sur un rappel d'urgence, là, mais je le regardais jouer hier, puis je me dis, deuxième match, troisième, quatrième, 10e match, 15e match, il va avoir l'air de quoi? Je me suis posé la question, j'essayais de transposer Caulfield. Est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il est prêt à jouer comme ça tous les soirs? Là, c'était beau, là, c'était cute, c'était le fun, pas de casque, puis la première période d'échauffement, les joueurs sont contents. Mais après ça, dans la Ligue nationale, si tu produis pas, là, ils se mettent à te regarder avec des gros yeux dans le vestiaire, là. Alors, est-ce qu'un jeune de 20 ans peut supporter ça? On a à peu près une liste, là, au moins une douzaine d'exemples dans les 15 dernières années chez le Canadien où on a rentré des joueurs trop vite. Moi, c'est la question que je me pose. C'était le fun hier. C'était un beau scénario. Ça a bien fini avec une victoire du Canadien. C'était bien correct. Sauf qu'on en a vu qui ont traîné trop longtemps sans produire, puis ça a affecté leur morale. Puis Caulfield, c'est un compétiteur. Tu repêches un gars parce que c'est un battant, lui c'en est un. Alors si ça se met à mal fonctionner, lui il va se sentir seul au monde. Puis faut pas que ça arrive. Là.
Et on en parlait, Danny et moi, hier à RDS, c'est que ce sont les circonstances qui l'ont amené à jouer le match d'hier.
Non,
là.
Ça c'est sûr.
C'était pas la volonté première de l'organisation. C'est parce que là, Tatar représentait un cas douteux, Byron n'a pas joué finalement, Drouin n'a pas joué non plus. Alors tu sais, ça prenait des joueurs là, à un moment donné. Là.
Ouais, mais pour la volonté de l'organisation, Alain, je vais mettre une petite parenthèse quand même. Là, quand ils ont décidé de l'amener en voyage, au lieu de le laisser avec le club de la Ligue américaine, où il aurait pu pratiquer bien plus que ce qu'il a pratiqué avec le grand club, là, je pense qu'on avait une petite idée en arrière de la tête quand on a décidé de l'amener. Est-ce que ça a tourné exactement comme ils pensaient?
Moi, je pense
peut-être
qu'ils se sont
pas,
fait
là,
avoir avec le calendrier du Rocket, qui en principe devait pas jouer durant le voyage du Canadien dans l'Ouest, mais on a remanié la cédule de la Ligue américaine, et là, on s'est rendu compte que le Rocket allait jouer deux ou trois matchs pendant que le Canadien était dans l'Ouest. Là.
Mais je veux pas être rabat-joie ce matin, là, mais les derniers, là, Galchenyuk rentré trop vite, on a vu le résultat. Jesperi Kotkaniemi rentré trop vite, on a vu le résultat. Kotkaniemi se cherche encore. Alors, je pense qu'on devrait apprendre de tout ça.
Dernière question, puis je vais parler avec Guillaume Latendresse tantôt, d'apprendre qu'Andrew Shaw, 29 ans, prend sa retraite parce que c'est la commotion cérébrale de trop qui écoute ses médecins. En quelques mots, comment vous voyez ça? Un gars qui a quand même une carrière, il n'est pas vieux, il a 29 ans seulement.
Ben lui, il a commencé à avoir quand même des séquelles, ben des commotions, et très tôt dans sa carrière à cause de son style de jeu. Puis, je pense que c'est une époque, au début de sa carrière, où on ne portait pas vraiment attention aux commotions, comme on le fait maintenant. Maintenant, il y a un protocole à suivre, très rigoureux là-dessus, beaucoup plus. Et les joueurs aussi ont plus de retenue. Ils vont prendre vraiment le temps de revenir dans de meilleures conditions. Mais c'est sûr que ça interpelle beaucoup parce que le jeu a tellement accéléré. Des joueurs qui, à l'aube de la trentaine, prennent des retraites parce qu'ils ont... Il y a des séquelles, là, et on n'a pas fini d'en voir, malheureusement, à cause de la nature du jeu.
Mmh. Martin?
C'était un kamikaze, Paul. Andrew Shaw, c'est un joueur d'équipe formidable. Les gens qui l'ont côtoyé pendant qu'il est passé à Montréal puis de son séjour à Chicago ont juste des bonnes choses à dire sur lui en tant que gars d'équipe, mais c'était un kamikaze. Écoute, là, quand t'as un physique comme il a, puis que t'échanges au bout du poing contre des durs qui ont à peu près 40 livres de plus que toi, là, c'est à peu près inévitable que ça se termine comme ça. Puis c'est dommage parce que lui, le commencement de la fin est arrivé avec le Canadien un soir où contre les Stars de Dallas, l'ancien défenseur du Canadien Greg Patron l'a frappé solidement. Il a voulu même se faire justice après. Il a attrapé un autre coup à la tête, là, à peu près dans le même laps de temps. Ça a commencé là. Ensuite, là, ça a été de blessure en blessure. C'est un gars qui a jamais fait de compromis, puis malheureusement, sa carrière s'est terminée comme ça parce qu'il n'a pas su se préserver.
Si je peux me permettre, oui, Paul, en terminant, je voudrais juste partager avec les gens que la Ligue nationale est très réticente de soustraire les batailles au spectacle. Et que les ligues juniors, un peu partout au pays, commencent à se poser des questions parce que les jeunes, tu sais, je veux dire, ils ont quand même le droit de laisser tomber les gants, là. Il y en a de moins en moins de bagarres, puis c'est une bonne chose, mais ça existe. Alors, tant que le règlement ne sera pas complètement biffé, un joueur comme lui, comme Andrew Shaw, qui est un joueur agressif, tout ça, vous savez, le fameux code, le fameux si, t'as frappé un joueur, tu l'as mal frappé, tu l'as frappé un peu au visage, il va te repogner comme dans le cours d'école, comme on disait à l'époque, là, ben, il faut que ça arrête, ça, parce que il y a beaucoup de joueurs qui sont victimes de commotion maintenant parce qu'ils se battent au bout du poing. C'est des super athlètes, là. Je veux dire, faut pas se tromper. Et ça, je pense que c'est au cœur du débat. Puis la Ligue nationale a vraiment un regard très profond à faire là-dessus pour prendre ses responsabilités puis protéger un peu mieux leurs athlètes. C'est leur produit, en fait.
Moi, ce que j'espère, c'est que Andrew Shaw se retrouvera pas dans 4-5 ans puis qu'on n'entendra pas parler d'une personne qui a des problèmes neurologiques sévères et tout ça. J'espère que ça tournera pas comme ça pour lui.
En conclusion, là.
Voilà. Alors, c'est le prophète qui a le dernier mot, qui est toujours de dire en conclusion. Merci, Danny. Merci, Martin. Salut. Toujours aussi intéressant.
Bonne journée.
Puis peut-être un mot sur la Formule 1, là. Monsieur, ouais, Fitzgibbon, qui est optimiste. Peut-être pas de Grand Prix cette année, mais disons, l'avenir serait assuré.
Ouais, c'est ça. Là, on a déclaré hier.
Il y a des rumeurs, comme dit Rob.
Ouais, c'est ça. Lors d'une conférence de presse là, qui n'avait pas rapport avec la Formule 1, il a été interrogé là-dessus, M. Fitzgibbon, et dit qu'il y aurait des annonces cette semaine. Quand on lui a demandé est-ce que ça va être une annonce positive, il s'est contenté de répondre qu'il est optimiste de nature. Ce que l'on entend ou ce qu'on laisse entendre, c'est qu'il n'y aurait probablement pas de Grand Prix cette année, mais que ça mettrait pas en péril la survie du Grand Prix de Montréal. Il y aurait, en 2022, il y en aurait un, et pour les années subséquentes également. Faut savoir que la santé publique de Montréal a émis un avis défavorable à la tenue de l'événement, et il y a toujours la question financière, là, le 6 millions que le promoteur réclame pour compenser les pertes en courues, là, avec la présentation d'un Grand Prix à huis clos.
Merci. 8h39. Comment ça va sur la 30?